c'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on dira plus rien. Mais je ferai pas ça.
Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
Denise, vous m'avez fait peur ce matin. Le titre de votre chronique, Je veux vivre, j'ai dit, coudonc, vas-tu nous annoncer qu'elle a une maladie chronique?
Oh mon Dieu, voyons. Seigneur, non. Ce que je disais, c'est, enfin, je vais le raconter, je vais vous le raconter, évidemment, parce que les gens n'ont pas nécessairement lu la chronique à cette heure-ci. C'est que, et ça, vous allez être d'accord avec moi, on est tellement dans, comme je dis, dans l'horreur humaine depuis plusieurs années maintenant, avec la pandémie d'abord, parce qu'on n'a rien vu venir, parce que les pandémies, par définition, c'est comme les guerres, on les voit pas venir. Puis quand on pense que c'est fini, ben c'est la même chose, ça peut ne pas finir. Il y a la pandémie, là on pense que la pandémie, là on parle de nouveaux variants et tout ça, et puis les guerres, on sait pas quand est-ce que ça va finir. Personne ne sait quand la guerre en Ukraine va finir. Donc, on est là-dedans, et veut pas, même si on lit pas beaucoup les journaux, même si, à moins de vraiment là, de s'en aller au fond des bois puis de se couper de tout et pas avoir aucune communication électronique possible, c'est sûr qu'on est quand même imbibé de ça et on finit par être touché de ça. Et c'est extrêmement difficile. Parce que c'est difficile parce que, vous savez, il fut un temps dans le temps du catéchisme, ou des catéchismes, vous posiez la question, où est Dieu? Dieu est partout. Ça réglait le problème. Oui. Fini. On se demandait plus s'il était là ou il était pas là. Vous savez, toutes ces réponses, toutes ces questions et ces réponses faciles à des questions, on n'en a aucune parce qu'on n'a plus de repères pour être capable de répondre aux questions que l'on se pose en regardant ce qui se passe dans le monde. Et je me disais, ça gruge le cœur, ça gruge la raison. Et à un moment donné, on se sent débordé. En tout cas, moi, il est arrivé, là, j'ai eu une période où je me sentais totalement débordée. Et là, je me suis rappelé comment j'étais quand j'étais petite, moi. Comment il se fait que je passais à travers ce à travers quoi moi je passais quand j'étais enfant, c'est que j'éprouvais par moments des émotions très, très fortes, des émotions de bonheur pour rien. Je marchais dans la rue, j'avais 6 ans. 7 ans, je m'en allais à l'école, j'aimais aller à l'école. Tout à coup, ouf, comme une bouffée de bonheur. Il faut être attentif.
Mais oui, il s'accrochait à ce qui va bien. Je sais pas si vous avez vu la caricature dans Le Devoir d'Éric Godin, mais bref, c'est un gars qui veut faire, vous savez, c'est le défi 28 jours pendant le mois de février, oui. On encourage les gens à pas boire d'alcool. Et lui, il regarde la télévision, puis là, c'est rien que des mauvaises nouvelles, puis il dit, c'est dur en tabarnouche de pas boire. Mettons, ils ont choisi leur mois pour nous dire de pas boire, alors que toutes ces mauvaises nouvelles-là nous tombent sur la tête. C'est vrai que c'est dur de pas se garrocher sur une bouteille de vin pour nous assommer un petit peu.
Oui, mais de toute façon, moi, par rapport à ça, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais par rapport à ça, à moins des gens qui soient carrément alcooliques, là, et qu'il faut qu'ils arrêtent pour des questions médicales, et parce que l'alcoolisme, c'est vraiment une dépendance très grande, mais pour ça, là, toute l'histoire, là, il faut pas prendre plus que 3 verres par semaine, mais idéalement, faudrait plus boire. Je veux dire, moi, quand je vois ça, je repense à la pureté. Les obsessions de pureté, on a des obsessions de pureté. Quand on croyait que le péché existait, eh bien, on péchait. Puis après, on se confessait. Donc, on avait le sentiment qu'on pouvait s'en débarrasser à un moment donné. Mais là, c'est plus ça du tout. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Hein? Ils cherchent à être purs. La nature humaine, par définition, elle n'est pas pure. Et c'est parce qu'elle n'est pas pure qu'elle est aussi si créatrice, qu'elle est aussi si dévastatrice, qu'elle est aussi exaltante et qu'elle peut être aussi déprimante, voyez-vous? Et c'est l'ensemble de ça. Mais quand on n'est pas équipé, je dirais, intellectuellement et psychologiquement pour être capable de se ressaisir, c'est extrêmement difficile. difficile. L'époque est extrêmement difficile.
Oui, et une des personnes qui me déprime le plus, c'est Justin Trudeau. Et aujourd'hui, Nathalie Elgrabi-Lévy, dans sa chronique, je vais citer une phrase de sa chronique. Trudeau est un multi-récidiviste des bombes politiques. Aucun politicien n'aurait survécu à autant de scandales. Alors, par quel miracle se maintient-il toujours en poste? C'est la question qu'on se pose beaucoup.
Eh bien, moi, demain, parce que je vais quand même pas révéler ma chronique de demain, là. Je l'ai fini, ma chronique. Je me suis levé à 6 heures ce matin, je l'avais dans la tête. Ça s'appelle Justin Trudeau, l'inoxydable. Et c'est une réponse que j'essaie de donner à ce que vous venez de me lire. C'est sûr. C'est consternant. C'est fascinant. Et c'est mystérieux que quelqu'un d'aussi peu doué pour la politique, n'est-ce pas? On peut pas dire que c'est un homme politique. Mmh. On peut dire que c'est un homme de spectacle.
Mais
qu'il a choisi la politique parce que, justement, il n'a pas choisi. Et qu'il a été comme élu. Hein? Le prince suivait le roi. Mais on se demande comment il se fait que dans le contexte du Canada, qui est un pays où il y a eu des oppositions qui se tenaient debout puis qui n'étaient pas toujours... C'est parce que là, le problème, c'est les oppositions au Canada, les oppositions qui sont au Parlement. C'est des partis qui ne peuvent pas être élus pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'il va rester là éternellement? Mais cette histoire-là, on peut pas la lâcher comme ça.
Mais il y a l'inoxydable, c'est qu'il est
On peut pas lâcher ça. On peut pas se dire, bon, ben là, on va passer à autre chose. Non. Il vient de se passer quelque chose d'extrêmement grave et j'essaie de donner une explication à ça que vous lirez demain dans le journal.
Donc, l'inoxydable, c'est qu'il est fait en téflon. Il y a rien qui colle sur Justin Trudeau parce qu'il y a eu plein de...
L'inoxydable, c'est ça. Ouais. Il y a rien, rien. C'est quand même extraordinaire. Il est allé se déguiser, il a joué à l'Halloween en Inde. Et puis, ça n'a pas eu de... J'imagine un autre chef d'État dans un pays européen qui aurait fait la même chose. Ça n'aurait pas passé.
Ben non.
Si ça avait passé en Inde, ça n'aurait pas passé dans son pays. Je veux dire, il reste un minimum, comment dire, de culture politique en Europe. Mais des pays qui sont en train de basculer, ça, on le sait. Mais c'est pour ça que le métier est à la fois actuellement si fascinant, notre métier d'observateur et de chroniqueur, et si difficile, et c'est complètement déstabilisant pour ceux qui font de la politique et qui n'ont jamais imaginé que la politique, ça pouvait atteindre de tels excès.
Mais Denise, vous dites, il faut pas laisser passer ça. Je fais une prédiction. On va s'énerver encore pendant quelques jours, puis lundi, on va passer à autre chose. C'est ça le Québec.
Non, c'est pas seulement le Québec. C'est regardez, les gens ils oublient. Moi, je vais vous parler à un moment donné parce que je rencontre son producteur là. Je vais le rencontrer la semaine prochaine. J'ai vu un film de 2h30. Sur Simone Veil.
Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu.
Dans la liste. Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu.
Bon. Eh bien, est-ce que vous savez que quand vous posez la question, il y a eu un sondage. Il y a un sondage qui a été fait sur les jeunes de 20 à 35 ans. Vous leur posez la question et leur demandez, est-ce que vous savez ce qu'est l'Holocauste? Je parle des jeunes chez nous, là. Je parle pas du fond de la Namibie, là. Hein? Hein, qu'est-ce que c'est que l'Holocauste? Ils savent pas.
Alors, ça s'intitule Simone Veil, le voyage du siècle. C'est une vie absolument extraordinaire.
Qui à 16 ans a été mis dans les camps de concentration avec ses parents. Elle est devenue après une grande femme politique. C'est elle qui a fait passer l'avortement en France dans un débat qui a été extrêmement violent pour elle. et pour la société française, mais ils l'ont fait, et elle a gagné à la fin. Et ça, c'est grâce à Giscard d'Estaing, qui était président de la République, et qui l'avait choisi, Simone Veil, pour il lui avait offert cette responsabilité-là qu'elle a
faite. Mais vous dites des fois que l'actualité est déprimante, et j'ai ouvert mon émission là-dessus. L'ignorance, les gens qui lisent moins, les jeunes qui maîtrisent plus leur langue, la montée de la délinquance, oui. On le voit en France, oui. L'ensauvagement, la délinquance, on le voit ici aussi, un jeune qui vient de se faire battre par 10 personnes pour son cellulaire, tout ça, il y a un lien, là.
Et moi, là, si vous me permettez, je voudrais juste, ma chronique s'appelle ce matin « J'adore vivre », si vous permettez, je vais lire juste le petit bout sur ma petite fille, sur ma petite fille Rose. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle avait à peine 4 ans, là. C'était pendant la pandémie. Et c'est à ça que je m'accroche, finalement. Elle m'a dit, grand-maman, elle dit, toi, t'as vécu une longue vie. Puis là, elle a ouvert ses bras, là, tu sais, tout large. J'ai dit oui. Là, elle a rapetissé ça comme un accordéon, il en restait presque plus. Elle m'a dit, il t'en reste encore un peu. J'ai dit oui. Et elle a dit, grand-maman, je veux pas que tu meures. Et là, j'ai dit, mais je vais pas mourir. Elle a dit, oui, j'ai peur que tu meurs. Et alors, elle a ajouté, mais moi non plus, je veux pas mourir. Elle avait quatre ans, je vous le dis. Et elle m'a dit, tu sais pourquoi? Puis là, elle pleurait. Et là, j'ai entendu des mots que je me disais à moi-même quand j'étais enfant et que j'avais ces bouffées de bonheur. C'est ça que je me disais, les mêmes mots, je les ai entendus dans la bouche de ma petite fille. 70 ans après, elle a dit, parce que moi, je veux pas mourir parce que j'adore vivre. Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Cette passion de vivre. Parce que les gens veulent encore vivre. C'est pas vrai que tout le monde, que c'est pas parce qu'on est vieux. Quand on est vieux, on comprend que la mort s'en vient. Ça, c'est évident. Si on est un peu, si on a encore toute sa tête. Mais, c'est sûr. Il faut apprivoiser ça. Oui. C'est inéluctable. Mais cette passion de vivre. Moi, ça explique les gens qui comprennent pas mon énergie. Ça explique en partie mon énergie. C'est vrai.
Ben, c'est à lire aujourd'hui dans le journal. J'adore vivre. Puis je vous souhaite justement un bon week-end de belle vie. On se reparle lundi.
Denise. Oui, on se reparle lundi. Au revoir.
Merci, au revoir.